Aujourd'hui, dans la Grande Thème, nous interrogeons l'avenir de la gauche avec le philosophe Michel Fossel, contributeur du nouveau numéro de la revue Esprit. Puis on refait un peu l'art avec la plasticienne Morgane Schimber. France Culture, il est midi. On commence par les titres du journal que vous développerez dans une demi-heure. Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. C'est la rentrée universitaire aujourd'hui. La hausse des inscriptions va s'accompagner l'an prochain d'un effort budgétaire, c'est ce qu'affirme le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur Thierry Mandon, qui donnait ce matin une conférence de presse suivie pour nous par Hakim Kasmi. Pendant ce temps, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, parlait de construire entre 10 000 et 15 000 nouvelles cellules d'ici le 1er janvier 2025 pour permettre notamment la généralisation de l'encellulement individuel dans les prisons, commentaire avec Florence Turme. Aux États-Unis, la piste d'une attaque d'inspiration djihadiste se renforce après l'arrestation d'un Américain d'origine afghane de 28 ans, inculpé donc pour les attentats à New York et dans le New Jersey ce week-end. Précision avec Eric Biegala tout à l'heure. Un mot aussi sur la situation dans la République démocratique du Congo, lendemain d'une journée de violence meurtrière à Kinshasa. Ce matin, le siège du premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale congolaise était en feu, suivi de la situation tout à l'heure avec Bénédicte Robin. Et puis l'invité de la séquence interview, ce sera Véronique Descac, qui est secrétaire générale adjointe de la CFDT. Voilà pour les titres. C'est à vous, Olivia Jesbert, la Grande Table qui continue.
Merci beaucoup Antoine, on vous retrouve dans une demi-heure pour le journal. Bonjour à tous. Comme un mardi, on travaille la matière. Réfléchir, à partir de 12h55, la gauche à l'épreuve du monde et du progrès, quel avenir ? Nous en discuterons avec le philosophe Michel Fossel, qui a contribué au nouveau numéro de la revue Esprit, qui s'interroge ce mois-ci sur les métamorphoses du socialisme dans le temps et dans l'espace de la mondialisation. Mais d'abord, tout est art, nous disait hier l'artiste Ben. Tout est matière, lui répond ce midi la plasticienne Morgane Schimber, notre invitée jusqu'à 12h30. La Bretonne expose en ce moment 6 soleils au Macval à Vitry, une réflexion sur la matière, la couleur et le mouvement, vous nous en direz tant. Si vous voulez regarder en écoutant des photos de ces installations, elles sont en ligne, logiquement, à la page de la Grande Table sur franceculture.fr. Bienvenue à tous, on est ensemble, vous le savez peut-être, jusqu'à 13h30.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Du sable, de la mousse, de la corde, de la brique, notre invitée est artiste, sculptrice, plasticienne et elle se plaît à s'approprier l'espace en cette rentrée, celui de la nef du musée d'art contemporain du Val-de-Marne, le Macval. Morgane Schimber, bonjour.
Bonjour.
Les dimensions de cette nef, vous les connaissez déjà ?
À peu près, mais j'ai l'impression qu'elles ont un petit peu changé.
Elles ont diminué ?
Elles ont diminué ou elles se sont... Oui, je pense qu'elles ont diminué déjà de quelques centimètres parce que au départ, le sol était marron, ce qui donnait à la nef un effet étriqué. Et ça ne me convenait pas du tout. Et finalement, je l'ai recouvert d'un sol blanc. Donc déjà, il est monté de quelques centimètres. Et ce sol blanc a complètement modifié cet espace, en fait. Ensuite, bon, évidemment, je pense qu'il est à peu près, il y a des dizaines de mètres de haut et une, au moins 30 mètres de long, quelque chose comme ça. Donc, c'est une, effectivement, c'est une salle assez grande dont Alexia me disait que c'était un espace difficile pour les artistes.
Alexia étant
la directrice du Macval. Voilà. Et elle m'a dit, c'est pour ça que je te donne cet espace parce que tu aimes l'espace et voilà, à toi de jouer.
C'est toujours pas mal d'arriver de commencer un projet avec quelqu'un qui vous dit que c'est difficile et qu'il va falloir peut-être pas faire mieux que les autres, mais en tout cas réussir comme un pari. Alors justement, vous y êtes arrivé dans ce lieu avec une idée assez précise de ce que vous vouliez y montrer, ou vous êtes plutôt d'abord imprégné du lieu pour imaginer, concevoir ce qui sera à six soleils.
J'aime bien concevoir des projets spécifiques pour les espaces et voilà, faire des projets in situ. En fait, quand je suis venue voir cette salle, à chaque fois, elle était dans le noir. C'était une salle où toutes les fenêtres avaient été obturées et donc recouvertes de pellicules noires, justement. Et j'ai décidé, du coup, pour cette exposition, de la surexposer, puisque pour moi, effectivement, une exposition, ça a toujours à voir avec la surexposition ou la sous-exposition. Qu'est-ce qu'un artiste a envie de montrer? Et après cette salle qui avait été restée baignée dans une lumière noire pendant des mois, et voire peut-être des années, j'avais envie de lui redonner toute cette lumière que l'architecte aussi avait imaginée au départ. Et ce qui était drôle, c'est qu'en enlevant ces films, je me suis rendu compte que les verres étaient sablés. C'était un petit premier comble de l'histoire, parce que du coup, au lieu d'avoir une lumière directe, cette lumière allait être diffuse et non violente, en fait. Mais ça a été la première réflexion, c'était sur cette idée de surexposition et de sous-exposition. Et ensuite, m'est venue l'idée que, pour une fois, j'avais envie que la lumière soit la matière première de cette exposition. Alors évidemment, elle est toujours en lien avec l'ombre et l'idée, c'est comment peut-on montrer la lumière de la même manière, de comment peut-on montrer un espace ou comment sentir un espace. C'était d'ailleurs un peu ce que j'avais essayé de faire en faisant la création radiophonique que j'étais venue faire ici à France Culture il y a quelques mois, finalement presque un an. Et donc voilà, donc le soleil.
Ce jeu hein, avec la lumière qui est effectivement à l'origine de ce que vous avez conçu, on va essayer de le décrire, hein, c'est pas évident, mais comme on n'a pas l'image, on va tenter de raconter, c'est plus facile sur un tableau très figuratif, mais on va y parvenir. Cette vaste pièce à Mortgage Chamber du musée est éclairée par des grandes baies vitrées. Quel matériau vous a semblé du coup communiquer le mieux avec l'extérieur, répondre à ces changements de lumière, de saison, refléter peut-être des sensations que vous aviez envie de traduire à travers ces installations?
Alors, c'est toujours compliqué dans un travail et c'est un peu comme un millefeuille, mais il y a plusieurs désirs qui s'entrecroisent. Je travaille depuis longtemps avec des briques, je construis des murs, je transforme les espaces. Et il n'y a pas de briques faites par de femmes. À part les cuisses des femmes qui ont servi à mouler les tuiles rouges de certains toits. Voilà, donc je me suis dit...
Vous ne travaillez qu'avec des matériaux réalisés par des femmes?
Non, mais j'aime bien réaliser moi-même les outils. En fait, j'ai très peu de ready-made utilisés ou fabriqués par d'autres. Après, je pense que la brique que je fais peut devenir un ready-made. Mais souvent, tout provient de mon atelier. C'est-à-dire que c'est rarement des objets trouvés et utilisés tels quels. Et là, voilà. Donc, je me suis dit, je vais créer ma propre brique.
Alors, à partir de quoi? De sable?
Alors,
c'est une sorte de sable aggloméré?
Voilà, c'est simplement du sable qui est compressé avec un liant, évidemment, constitué quasiment que de l'huile de tournesol c'est une petite brique écologique, on va dire. Et alors cette brique m'est apparue quand je l'ai dessinée percée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas pleine, mais justement elle permet au soleil de rentrer. Donc il y a plusieurs formes, il y a trois formes triangulaires, dont une est inscrite avec un cercle à l'intérieur. Donc, il y a vraiment du coup un jeu qui permet à la lumière de traverser ces différents murs et d'inscrire des ombres au sol, au mur, et de comme ça envahir l'espace aussi déjà rien que, et de percevoir déjà quelque chose qui pourrait s'apparenter au rayon de lumière ou en tout cas à sa complémentaire, à son ombre.
Donc dans Six Soleils, vous expérimentez quelque part les propriétés du sable, un sable que vous n'êtes pas allé ramasser sur les plages de Normandie ou de Bretagne, dont vous êtes originaire, mais un sable plutôt industriel, hein, c'est ça, c'est un produit?
Non, c'est un vrai sable.
Il vient du côté de Brest ou pas?
Non, il vient pas de là, je pense qu'il vient d'Italie, mais j'en mettrai pas ma main à couper. Non, c'est un sable qu'on trouve partout, en fait, ça aurait pu être un sable breton, effectivement, ça aurait pu être le
cas.
Alors racontons ce qu'on voit dans cette grande nef. On y trouve de grands murs finalement dont la surface, vous l'évoquiez, est trouée façon moucharabier, un maillage assez typique des habitations, des maisons qu'on retrouve dans les pays arabes. Et ça filtre le soleil, hein, ça laisse passer le vent. C'est en principe comme ça que ces murs sont constitués, ces murs percés. C'est censé maintenir aussi la fraîcheur sans nous plonger complètement dans le noir. Les espaces sont géométriques, c'est triangle, c'est rond, et quel que soit le côté où l'on se place, on a plus qu'une vision parcellaire du monde. Il y a combien d'installations ? Une, deux, trois grandes, hein, oui, dans voilà. Les plus importantes. Et puis après, il y a un jeu aussi avec différentes matières, des tapis en mousse, jaune ou rose clair, une corde, un miroir, des boules de verre, de la cendre. Qu'est-ce qui trouvait place au milieu de ces structures de briques pour vous ? Qu'est-ce que ça révèle ?
Alors en fait, je raconte effectivement dans un petit journal qui a été à disposition des spectateurs dans cette exposition que j'ai été affectée par le soleil dans une promenade un jour dans le désert arizonien qui s'appelle le Painted Desert, où j'avais moi-même fait des photos, où j'avais du coup surexposé mes pellicules et je m'étais surexposée parce que ce jour-là, je me suis perdue. Donc j'ai été moi-même insolée par ce soleil. Et en revenant de ce périple, je n'ai finalement pas développé ces photos. Mais cette sensation physique que j'avais eue, qui était très très particulière, toutes ces sensations visuelles, colorées, qui m'avaient imprégnée, j'avais eu envie de les retranscrire. Et j'en ai fait un livre, qui est disponible aussi et qu'on peut voir dans cette exposition. Et du coup, ce rapport à l'idée et au toucher, au fait que les choses sont transformé par la lumière, j'avais envie de le rendre visible. Donc toutes ces mousses que vous voyez qui sont roses comme un épiderme sur les murs, il y a un mur qui fait effectivement 10 mètres de haut sur à peu près 8 mètres de large et entièrement recouvert de cette mousse rose. Elle est photosensible elle aussi puisqu'elle change de couleur au fur et à mesure de l'exposition. Elle s'imprègne elle-même du soleil et ces briques elles-mêmes sont photosensibles. Et certaines, si le spectateur a un œil aiguisé ou en tout cas fait attention à ce qu'il regarde, va voir que certaines briques sont très très jaunes alors que d'autres ne le sont pas. Et en fait ces briques ont été insolées dehors dans le jardin, le parking du Macval, parce qu'elles ont été stockées là un long moment. Et j'avais laissé d'autres briques qui les superposaient. Et donc, on peut vraiment voir des photogrammes, comme Molinagui, lorsqu'il utilise une émulsion photographique et qu'il pose un objet dessus, qu'il insole cet objet. Lorsqu'il l'enlève, il a la trace de cet objet sur son papier photo. Et ben là, c'est exactement la même chose. Ces briques, comme ces mousses, s'insolent et se transforment comme un épiderme. Et à l'intérieur, donc pour moi, ces murs sont presque comme des cellules. Renvoie à des tissus qui se développent comme ça dans l'espace.
Oui, c'est intéressant d'ailleurs parce que vous avez effectivement retenu ce terme de cellule dans le texte que vous présentez aussi au spectateur, à celui qui se balade, aux visiteurs dans l'exposition, pardon. Et vous parlez de la corde qui traverse l'une des installations comme d'une chaîne d'ADN qui serait placée au centre d'une cellule. Donc il y a quelque chose de très organique finalement aussi, hein.
Oui, bah, en fait, il y a toujours plein d'idées qui nous traversent l'esprit lorsqu'on commence, qu'on crée quelque chose. Après, c'est vrai que toujours me revient les choses finalement presque en pleine figure de manière totalement abstraite, parce que je peux aussi voir mon travail comme uniquement une partition, par exemple, de formes géométriques qui se déploie comme ça sous mes yeux avec ses rythmes entre ce cercle qui s'inscrit dans ces triangles et etc. Et aussi par moments je peux déployer comme ça mon imaginaire et plonger et me rendre compte que effectivement comme ce sont des matières photosensibles, j'avais envie finalement que ces murs soient habités aussi. Du fait de ces perforations, de ce côté moucharabier qu'on peut y voir, lorsqu'elles étaient aussi stockées en extérieur, des papillons et les coccinelles ont commencé à faire leur cocon à l'intérieur. Et je me suis dit, ah, mais c'est, ça me plaît beaucoup, cette idée grande poésie comme ça, naturelle, qui s'installe. Et je me suis dit, mais oui, ça devrait être des murs habités. J'avais pensé au départ à des sunbirds, qui sont des oiseaux magnifiques, puisqu'ils réfléchissent entièrement la lumière, le spectre coloré avec voilà, presque toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et j'imaginais ces oiseaux sunbirds voler dans l'exposition, qu'on m'a totalement interdit. Mais...
Et c'est pour ça qu'on retrouve une aile d'oiseau brûlé au sein d'une des installations.
Alors, en fait, l'aile...
Non, c'est pas ce pauvre sunburns qui a été...
Non, mais en fait, évidemment, il y a des jeux liés au soleil, comme se brûler les ailes, par exemple. Et donc, cette aile d'aigle qui a été brûlée devient du carbone. Et le carbone, c'est l'élément qui constitue votre corps et qui était l'élément premier sur notre planète, sans laquelle nous ne pourrions pas vivre. Et au bord du mur, de ce premier mur, il y a aussi un diamant. Et tout ça se répond évidemment et renvoie des signaux à la lumière, puisque le carbone absorbe toute la lumière et absorbe tous les rayons de la lumière, alors que le diamant, qui est également du carbone, réfléchit avec toute cette transparence, réfléchit entièrement le spectre coloré, le diffracte dans l'espace, alors que c'est une seule et même matière. Et ce qui était drôle, quand j'ai fait cette conférence avec Daniel Kunt, un astronome, samedi dernier, il trouvait ça très intéressant d'avoir mis ce sable en relation avec ce carbone, puisque ce ne sont pas du tout des matières qui s'opposent, mais qui sont presque complémentaires.
Et on notera aussi qu'il y a quand même la présence de cette série de pellicules Kodak, du coup, que vous avez rapportées, non développées. C'est elles, hein, ce sont automatiquement celles qui nous reviennent d'Arizona.
Elles sont là.
Qui sont perchées sur une étagère et qui, là encore, du coup, échappent à la lumière. Elles n'y ont pas échappé au moment où vous avez pris les photos, mais cette fois, elles y échappent. France Culture avec la plasticienne Morgane Chimber, invitée de la première partie de la Grande Table jusqu'à 12h30. Mais où va le monde ?
Mais où va le monde? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels? Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, ce n'est pas normal. Que je veux bien faire les choses, dire toujours de travers. Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers.
Et moi,
we
Mystère, c'est l'un des albums phares de cette rentrée pop-rock musicale française. Ils sont 6 et ils forment le groupe La Femme. Ils seront le 30 à Rouen, le 1er octobre à Besançon et le 18 à Paris. Deux mots pour vous, hein, Morgan Chimber. Ouais. Mystère et Femme.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Attention, c'est maintenant que ça se complique. Et je vous rappelle quand même qu'on peut voir les installations, voir un aperçu de Morgan Chimber sur le site de la Grande Table, sur franceculture.fr et également sur les réseaux sociaux. On essaye de vous poster quelques images au fil de notre discussion pour que vous puissiez avoir un support visuel. Morgan Chimber, votre travail entretient un dialogue quasi physique avec les matériaux, pose des questions sur l'interaction de ces matières, de ces installations avec l'espace, et cette démarche renvoie à un mouvement artistique, le minimalisme, l'art minimal, dont vous citez d'ailleurs l'un des principaux artistes théoriciens, Robert Smithson, dans le journal qui accompagne l'exposition. Elle voyait les choses dans la multiplicité de leurs relations et non comme des objets isolés. Un peu plus tard, vous continuez. Les mots et les roches contenaient un langage qui suivait une syntaxe de fente et de rupture. Il suffisait qu'elle regarde n'importe quel mot assez longtemps pour le voir s'ouvrir en une série de failles, en un terrain de particules, chacune d'entre elles contenant son propre vide. Vous revendiquez cet héritage ou c'est des étiquettes qui ne veulent plus rien dire pour vous aujourd'hui, art minimal, minimalisme, etc.
Non, c'est des choses importantes. Après, on crée son propre système de navigation, mais Smithson, c'est un artiste exceptionnel qui m'a nourri et nous sommes constitués de plein d'êtres comme ça. Donc non, j'ai grandi et avec Olivier Mosset, des artistes aussi français qui sont dans une veine similaire. Et c'est des gens qui m'ont apporté énormément. Après, c'est vrai qu'on s'en détache. Moi, j'aime ce qui m'intéresse, c'est de rendre visibles les choses. Donc, j'ai un peu pris le minimalisme et je l'ai retourné comme une peau pour montrer ses coutures qui étaient toujours cachées chez les artistes minimales. Des choses parfaitement bien faites, sans aucune trace, aucun acte lié à la main. Et dans mon travail, les formes sont assez épurées, mais montre tout ce système de fabrication. Le système, en général, est visible et ses coutures, tout ce qui a servi à la manipulation, à la fabrication de l'objet est visible. Mais toutes les origines viennent sans doute de cet univers-là. Et lorsque vous parlez de cette phrase, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va toujours, ce qui me plaît chez Smithson, c'est que c'est pareil, ça va de la physique à la métaphysique. Et qu'on peut voir les mots, effectivement, notre alphabet, c'est un peu comme des atomes, en fait. On lit deux lettres ensemble et ça forme un objet, un mot qui renvoie un objet. De même quand on prend deux molécules qui s'associent, ou des atomes qui s'associent entre eux, on forme une matière. Et j'y vois énormément de relations comme ça entre...
Entre les deux.
Entre les deux.
Et alors, il y a un artiste qui a dû se justifier. Il n'est pas le seul, j'imagine que c'est le cas pour beaucoup d'artistes minimalistes ou d'art minimal sur cette question-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la polémique qui avait agité un peu le microcosme et appelé Carl André à se justifier à cette question fondamentale. Qu'est-ce qui est de l'art et qu'est-ce qui ne l'est pas? Il avait exposé dans les années 70 à la Tate Gallery une sorte de gros mur de briques rectangulaire et la Tate avait bouté cette sculpture hors de ses murs, estimant que ce n'était pas vraiment de l'art. On l'écoute.
I remember the Daily Mirror. They had a picture of it in the front page. What a load of rubbish. That was the headline for the day.
Je me rappelle du Daily Mirror qui titrait en une avec une photo. Qu'est-ce que ce tas de déchets? Je n'ai pas compris pourquoi les personnes ont eu de telles réactions négatives au sujet de simples briques. Mon grand-père était maçon et j'ai habité dans une maison faite de briques. J'ai donc été familier des briques toute ma vie. Les gens pensaient que c'était un outrage de faire une sculpture en briques. Tout le monde pensait que la Tate l'avait acheté $1 million alors qu'elle l'a payé $2000. Et Duchamp disait « c'est l'artiste qui décide que c'est de l'art ». Pour moi, c'est de l'art. Et c'est aussi de l'art pour les quelques autres personnes qui reconnaissent ça comme une sculpture. Et j'espère que l'art n'est pas quelque chose de démocratique. Ce n'est pas le nombre de personnes qui apprécient ton art qui fait qu'il est bon ou qu'il ne l'est pas. Dans la tête des gens, ce n'était pas de la sculpture. Je n'ai pas satisfait l'idée même que les gens ont de la sculpture. La plupart des personnes m'ont reproché de qualifier cela de sculpture alors que je n'ai pas sculpté ces briques. Je n'ai pas touché à leur forme. Je n'ai pas changé l'aspect de ces briques, certes, mais j'ai essayé d'utiliser ce matériau pour donner forme à l'espace.
Alors, est-ce que c'est la transformation qui fait l'art? Est-ce que c'est son accessibilité pour l'œil qui se pose dessus qui fait l'art? Est-ce que c'est la nouveauté qui fait l'art, comme nous l'expliquait hier Ben à l'occasion de son exposition rétrospective « Tout est art, point d'interrogation ». Qu'est-ce que vous en pensez, Morgan Gimber?
J'adore entendre Karl-André raconter cette histoire. En tout cas, ça me réjouit. Je pense que l'art, c'est ce qui n'a pas sa place ailleurs, en fait. Ça peut être effectivement, en fait, c'est ce qui ne relève qui, pour moi, ouais, c'est compliqué à expliquer, mais c'est très difficile de délimiter l'espace de l'art, parce que finalement on sent bien qu'il envahit la vie plus que presque les musées, et c'est aussi la définition que Beuys pourrait donner. Je sais pas. Pour moi, c'est juste qu'elle ne peut pas être ailleurs, qu'elle n'a pas sa place ailleurs. C'est simplement, l'art est un domaine voilà, les artistes font des paraboles qui captent et qui sont souvent finalement en avance de ce qui se passe, et qui effectivement, lorsque Karl-André dit que ce n'est pas quelque chose comme ça qui est accessible à tout le monde dès le départ. Je veux dire, il y a toute une histoire de l'art, Karl-André dialogue aussi avec toute cette histoire. Même s'il la rompt par moments, il la continue aussi. C'est comme les sciences s'apprennent, et il y a toujours, on sent au départ comme ça, toujours de certaines réticences de certaines personnes, mais qui n'ont pas appris ce langage.
Il y a comme un dialogue aussi qui se crée entre ce champ théorique que l'art peut interroger et puis les émotions, les sensations que ça peut provoquer. Il y a un côté très, très intellectuel dans votre travail, même si vous cherchez à provoquer ces sensations dans cette explication, ce journal que vous offrez aux visiteurs qui se baladent au sein du musée Macval, là en l'espèce, pour rencontrer vos installations. Vous citez Descartes à plusieurs reprises. On sent que vous avez beaucoup travaillé aussi à partir de ces textes, que ce soit son discours de la méthode, que ce soit les météores. Il y a quelque part l'idée de faire ce lien effectivement entre la physique, la métaphysique, et de mettre en mots des idées avec cette note d'intention. On voit qu'il y a plus qu'un texte d'explication qui accompagne vos expositions, mais une sorte de réflexion que vous avez cherché à transformer ensuite.
Mais en fait, les artistes sont remplis d'affect comme ça, et aussi je pense que ces dernières années, on s'est rendu compte, beaucoup d'ailleurs de philosophes comme Schusterman, etc., que là, il y avait une sorte de réunion comme ça aussi entre le côté physique et le côté métaphysique. Les gens ont, même certains philosophes de nos jours travaillent et font de la mécanique pour penser des concepts. Et je pense que les artistes, c'est pareil. Moi, j'étais l'étudiante clandestine de Derrida. J'ai suivi les cours
De Georges Duberman aussi.
Duberman, etc.
Quand vous dites étudiante clandestine, c'est...
Non, parce que j'étais aux Beaux-Arts en même temps et que je voulais pas... Donc voilà, j'étais juste étudiante en cours, comment on appelle ça,
libre.
Libre, hein, oui, voilà, c'est ça. Donc j'avais pas envie de rendre des comptes à qui que ce soit. J'étais juste là pour écouter et apprendre. Donc on est traversé comme ça par plein de choses. On n'est pas que dans un domaine. Moi, c'est vrai qu'il y a plein de domaines qui m'intéressent. Petite, j'étais fascinée par... j'avais des lunettes astronomiques à la maison, des microscopes. J'adorais l'archéologie, etc. Et je pense que finalement aussi, l'art, c'est ce domaine où on est nourri par plein d'autres domaines, comme des sortes de perfusions qui nous alimentent et qui nous nourrissent et qui se multiplient en se divisant, et que c'est tout ça qui nous constitue. Et on n'est pas uniquement dans un domaine. Je crois qu'il y a tout ça est de l'ordre des vases communicants qui communiquent en permanence entre elles. Mais c'est sûr que la physique renvoie directement à la métaphysique. Lorsque j'avais raté des pièces en verre où par hasard il y avait des petites poussières qui s'étaient installées dedans, finalement au début j'étais déçue, puis après je me suis dit mais cette poussière est exceptionnelle. Elle renvoie vraiment à mon être et va de cette physique à cette métaphysique. Et finalement, c'est ce qui a donné ces petites pièces en verre qu'on voit
sur le sol,
qui, elles, ont été vraiment constituées et faites en pensant à cette... Voilà, une nouvelle forme de cette rencontre entre ce verre et cette poussière.
Les installations de Morgan Chimber sont à voir au musée Macval jusqu'au 5 mars. L'exposition vient de commencer. Quelques pièces également de vous sont exposées à la Carpenter's Gallery en ce moment dans le cadre d'une exposition de groupe. Art Light, ce sera jusqu'au 12 octobre. Un grand merci. On peut aussi signaler les portes ouvertes à Ivry-sur-Seine puisqu'on sera pas très loin d'un autre artiste que vous connaissez sûrement qui s'appelle Laurent Chabot et qui travaille beaucoup avec la lumière, le soleil. Voilà, il y aura ces fameuses meules de foin qui seront représenté là-bas et ce sera tout prochainement à partir du 24 septembre. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
À suivre après le journal de France Culture, l'avenir de la gauche avec le philosophe Michael Fossel.